De bouche à oreille.
Nous vous présentons notre première émission Bouche à oreille. C'est un fruit d'une semaine de travail et de rire avec Yves Amar afin de monter à web radio pour favoriser la pratique et la compréhension du français.
D'une déambulation à travers notre expérience de langue, nos désirs pédagogiques et nos rêves de français.
Qui s'intéresse à cette langue à Dhaka? Qui la parle? Qui la lit? Voici quelques-unes des questions que nous nous sommes posées. Et on commence par visiter l'endroit principal où on l'enseigne, l'Alliance française de Dhaka, avec Naziba, qui a rencontré son directeur, François Rojon.
Bonjour monsieur, si vous pouvez vous introduire un petit peu.
Eh bien, volontiers, je suis François Grosjean et je suis actuellement le directeur de l'Alliance française de Dhaka.
Quand est-ce que l'Alliance a été fondée?
Alors, l'Alliance française de Dhaka a été fondée en 1959.
Si vous pouvez décrire un petit peu le chemin qu'on a traversé jusqu'à présent.
Alors, déjà, antérieurement, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'histoire des alliances françaises. Comment sont nées les alliances françaises? Elles sont nées suite à la guerre de 1971 entre la France et l'Allemagne, qui a été vécue par le peuple français comme un drame, puisque à cette époque, nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine. Et des intellectuels de l'époque, des intellectuels, des scientifiques, des écrivains, Ernest Renan, Pasteur, Jules Verne, Ferdinand de Lesseps, se sont réunis et ont essayé de trouver une idée pour propager la culture de la paix au travers de la langue française et des valeurs de la langue française. Donc, l'Alliance française, le réseau des alliances françaises, la date à retenir, c'est 1883. Le conseil d'administration s'est réuni pour la première fois en 1884 et à partir de ce moment-là, on a commencé à ouvrir des alliances françaises partout dans le monde. Alors bien sûr, dans les colonies, je crois que la première alliance française, c'est à Barcelone, 1885, suivie de l'alliance française de Pondichéry, 1889, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y en a 834 dans le monde aujourd'hui et dans 131 pays. Quant à l'Alliance française de Dhaka, 1959, c'était tout petit à l'époque, peu de Bangladais finalement parlaient français. Et le Bangladesh est un pays particulier avec une histoire récente, puisqu'il y a eu la guerre de libération en 1971, et en 1973, Malraux, qui avait soutenu l'indépendance du Bangladesh, est venu visiter le Bangladesh, a fait des discours à l'Alliance française de Dhaka et de Chittagong, et je pense, de ce que j'ai pu voir dans les archives, que ça a été un peu fondateur par rapport à l'Alliance française de Dhaka, et qu'à partir de ce moment-là, l'Alliance s'est bien développée jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Depuis quand est-ce que vous travaillez ici?
Alors, je suis arrivé en septembre 2021. Donc faites le calcul, nous sommes en avril 2023, donc ça fait un an et demi.
Quels sont vos sentiments envers cet endroit?
Ah ben moi j'aime beaucoup, mais j'y suis tous les jours. Mais non, je suis ravi d'être ici, je suis très heureux d'être au Bangladesh et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, à développer dans cette culture de la paix, bien sûr.
Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Shaun, qu'est-ce que vous faites à l'Alliance française de Dhaka?
Bonjour Madame, je travaille comme administratif officier. Je suis responsable de l'inscription, bureau d'inscription, bureau de traduction.
À quoi sert l'Alliance française de Dhaka?
À mon avis, l'Alliance française, ce n'est pas centre culture français. En fait, notre activité principale, c'est-à-dire pour enseigner le français. En même temps, il y a des gens qui viennent pour différents types des ateliers. Par exemple, ateliers musicaux, ateliers théâtre, ateliers peinture, photographie, tout ça. Heureusement, c'est mon collègue Il s'appelle Monsieur Arafat.
Bonjour, je suis prof à l'Alliance Française de Dakar. Et quand j'ai commencé à travailler ici, il y avait des cours en seulement sur site. Pendant le Covid, on avait un défi. L'Alliance Française de Dakar a lancé une nouvelle plateforme. Et en ligne, il y a quelques avantages. Par exemple, on n'a pas besoin de faire de trajet. On s'installe chez nous. C'était différent. On ne peut pas faire exactement ce qu'on fait dans la salle, mais il y a quelques applications, par exemple comme Learning Apps, c'est très interactif. Et maintenant, Alliance Française a lancé aussi Apple Learn, c'est une nouvelle plateforme. Okay.
On retourne vers vous, Monsieur Sharon. Pourquoi est-ce que les gens ils prennent des cours de français? Pourquoi ils apprennent la langue?
Bien sûr, il y a des gens qui viennent pour immigration au Canada. Il y a des adolescents, les enfants, pour aller à l'étranger, pour études supérieures.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est le DELF? Il sert à quoi exactement?
Dès l'examen, le diplôme études langue française, ça délivré par France Éducation Internationale. Par exemple, DELF B2, c'est le diplôme supérieur. Ça aide beaucoup pour les élèves pour qui demandent pour aller en France pour étudier à l'université. Et pour les adolescents, DELF Junior Examen, c'est un peu positif pour leur CV, pour prendre scolarité aux États-Unis.
Bon, au final, je vais vous demander quels sont vos sentiments envers cet endroit, comme vous êtes là depuis longtemps quand même.
En fait, je travaille presque 16 ans et je m'amuse bien.
Bonjour monsieur, bienvenue à l'Alliance Française. Je vous laisse vous introduire un petit peu.
Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Fazal Mahmoud, je suis Bangladais. Et j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, deux petites filles. J'habite à Paris actuellement et pour un court temps, je suis à Dhaka au Bangladesh. Dans quelques jours, je vais à Paris. Donc, à Paris, je travaille traduction en France et pour toute l'Europe. J'ai appris le français à Alliance Française de Dhaka, ici.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail? Ce que vous traduisez, de quelle langue à quelle langue?
D'accord. Normalement, je travaille le bengali vers le français et vers le français au bengali.
Quand vous avez commencé à apprendre la langue française, c'était quand et vous aviez quel âge? Et est-ce que vous pensez que l'âge est un facteur important pour apprendre une langue ou pas?
L'âge, c'est important. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre le français.
Qu'est-ce qui vous a motivé d'apprendre la langue française?
Au début, c'était, j'ai oublié l'année, c'est après 2000. C'était par hasard, quelqu'un m'a conseillé. Et après, j'avais dû apprendre le français juste pour apprendre les chiffres et quelques mots pour communiquer, présenter. Faire passer un message, c'est comme ça. Mais après, comme j'avais réussi le premier niveau, et après j'étais motivé de continuer, et c'est comme ça, j'étais motivé. Je voudrais remercier l'Alliance Française de Dhaka, le directeur et les directeurs qui sont déjà passés. C'est comme une famille. C'est vraiment une famille. Merci, merci. Merci tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant à tous.
Bonjour Madame Sharon Priya.
Bonjour Madame.
Vous êtes un membre de la médiathèque de l'Alliance Française. Est-ce que vous pouvez vous introduire un petit peu, s'il vous plaît?
Merci, oui. Je suis un membre de bibliothèque. J'ai fini mon études. Je travaille comme une legal associate dans un cabinet d'avocats.
Pourquoi est-ce que vous venez à l'Alliance Française?
Alors, j'ai fini mon DELF A ici. Je suis allée en France pour étudier mon master en droit. Quand je suis revenue au Bangladesh, les aspects culturels de la France m'ont manqué. C'est pourquoi j'ai rejoint l'Alliance française. Pour moi, c'est une petite partie de la France. Ici, je peux rencontrer des gens qui parlent français, des gens qui sont intéressés à cette langue. De plus, les ateliers comme les conversations au café m'ont beaucoup aidé.
C'est très intéressant. Quels sont vos sentiments envers cet endroit, du coup?
Les gens ici sont professionnels et accueillants. Et aussi, l'environnement est vraiment calme et tranquille.
Merci beaucoup, Sharon Priya. C'était très sympa.
Merci beaucoup, Naziba. Un autre sujet maintenant. Vous habitez au Bangladesh, mais comment se mettre en contact avec la langue française? Tiami, vous avez mené l'enquête.
Je veux pratiquer mon français à Dakar. Notre auditorat nous pose très souvent cette problématique. Voici un café francophone qui pourrait satisfaire ce besoin. Nous écoutons maintenant la pionnière de ce café. Bonjour Madame Ashrafi, nous savons que vous avez le projet d'ouvrir un restaurant un peu particulier.
Bonjour monsieur. En fait, nous avons envie d'ouvrir un café francophone. Si vous êtes un francophone, si vous habitez à Dhaka et vous avez envie de parler un peu en français et goûter la gastronomie française, vous êtes le bienvenu chez nous.
Qu'est-ce que vous attendez par un café francophone et qu'est-ce que vous faites là-bas?
C'est tout simple, il y a de l'ambiance française. Nous allons offrir des snacks français, des plats français, des plats français très simples. Et après, il y aura de la musique française aussi.
Les plats français, ça m'intéresse. Par exemple, qu'est-ce que vous entendez par les plats français? Qu'est-ce que vous proposez?
D'abord, il y a au menu, nous avons des croque-monsieur, des croque-madame, des croissants.
Ah, je vous arrête tout de suite. Les croque-monsieur, alors, qu'est-ce que c'est un croque-monsieur?
Un croque-monsieur, ça aussi, c'est très simple. Il faut du poulet, du pain, du fromage français, voilà.
Enfin, comment s'appelle votre restaurant?
Le nom, c'est très joli, vous allez voir. C'est à table. Donc, on vous invite à venir à table.
Nous allons aller chez vous, alors, à table?
À Gulshan, Alliance française de Dhaka.
Merci. Heureusement que nous avons trouvé une chef pour notre café. Une chef qui a vécu en France. Bonjour Elma Arifin. Vous êtes chef et propriétaire d'une pâtisserie. Le nom de votre boutique me semble original.
Yeah, it's called Pastryarchy. It's because it's a take on the word patriarchy where... It's meant
oui,
to
cela
be
s'appelle
in a way
le patriarcat.
A world where it's ruled by
c'est
men,
parce que c'est une interprétation du mot patriarcat qui signifie qu'au lieu d'un monde gouverné par les hommes, nous pouvons avoir un monde alternativement gouverné par les pâtisseries.
Carving roses out of butter to put on my bread and things like homemade guava jam.
J'ai grandi avec ma grand-mère qui taillait des roses dans le beurre pour les mettre sur mon pain. Et des choses comme la confiture de goyave maison, associée au Dhaka bonheur, qui est tout à fait unique. Je viens donc d'une famille où la nourriture fait partie intégrante de la vie, ce qui m'a donné un palais très raffiné. Très jeune, j'ai été fasciné par l'Europe, j'ai découvert que toutes les choses que j'aimais étaient d'origine française.
Tarts, my favorite,
les éclairs ou les entremets, les mousses, les tartes et ma préférée, la meringue au citron. C'est pourquoi je me suis dit que si je devais faire cela professionnellement, je devais aller à la source. Ce que j'ai appris de mon séjour en France, c'est que même s'il y a beaucoup à apprendre techniquement, je ne pouvais pas importer tout ce que j'avais appris dans un pays complètement différent du nôtre.
What I could hold on to was exactly the technique.
Mais c'est ce que je pouvais retenir, c'est exactement la technique et la norme et comment les utiliser pour mettre en valeur les ingrédients. Selon vous, quel est le plus populaire, le plus adapté au Bangladesh?
So it's very interesting. One of my most popular
L'un des gâteaux les plus populaires, c'est l'opéra, entièrement français.
Completely French. So when I adapted the opera,
lorsque j'ai adapté l'opéra au Bangladesh, tout le monde a adoré l'opéra de Patriarchy.
Everyone loves the opera from Patriarchy.
Les noms français, dans certains cas les prononciations françaises, nous les utilisons encore ici au Bangladesh pour certaines pâtisseries.
Yes, I think everyone is familiar with croissants.
Oui, je pense que tout le monde connaît les croissants
éclairs,
et les éclairs. Comme je l'ai dit, ainsi que les pâtisseries au chou. Elma, nous avons à l'Alliance française un projet d'ouverture de café francophone. Que pensez-vous de ce projet?
I think it's a very exciting project to be a part of.
Je pense que c'est un projet très excitant.
Europe, a taste of France in Bangladesh.
Ce serait un avant-goût de l'Europe, un avant-goût de la France au Bangladesh, mais avec le Bangladesh à l'intérieur.
Tiami, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Mais de toute façon, il existe déjà des pâtisseries à Dhaka. Rezwana et Arafat, vous êtes allés vérifier.
Assalamu alaikum.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
আপনাদের এই
প্রতিষ্ঠানের নাম কি? Comment s'appelle votre pâtisserie?
La Delicia.
আচ্ছা, আপনাদের এই যে প্রতিষ্ঠানটার নাম,
alors, quelle est la signification le nom de Delicia?
Delicia. এটার অর্থটা কি?
La Delicia মানে নারী বোঝায় আমাদের.
La Delicia est la société sort de la rive. Le rive est la marque de vêtements. On prend la de la rive et Delicia quelque chose de très délicieux.
Ça fait combien de temps que cette pâtisserie a été lancée ici?
Ça fait un an et demi.
En quelle année?
En 2022.
En 2022. Donc, quel type de produits vous vendez ici?
Principalement, on vend ici des produits de boulangerie, comme des biscuits, des pâtisseries et des pains.
Tout je dis, biscuits, c'est bon, qui donne les cookies?
Pouvez-vous m'en parler un peu détaillé sur vos produits?
Par exemple, les biscuits aux pépites de chocolat, des biscuits aux amandes, des biscuits salés. On fait aussi un gâteau d'anniversaire comme les gâteaux à la crème. On vend également différents types de desserts comme donuts, berliner, éclairs,
mousse.
Pourquoi vous avez choisi ce nom?
On suit complètement la recette française. C'est pourquoi nous choisissons ce nom.
Est-ce qu'elle a siège en France?
Non, c'est seulement au Bangladesh.
Donc au Bangladesh, vous avez combien d'antennes?
Il y a 6 antennes.
Merci beaucoup.
Merci Rezwana et Arafat. Les photos du Bangladesh, on les voit aussi ailleurs. C'est ce que nous raconte Urmila.
Bonjour Madame Lorraine Duret. Vous êtes la directrice de l'association Les Amis de Marc Ribou, qui fait partie du Musée National des Arts Asiatiques. Et l'objectif de votre association est de faire vivre, de faire connaître le travail du grand photographe français Marc Ribou. Et vous avez organisé une exposition sur son travail qui s'appelle Bangladesh 1971 Morning and Morning à l'Alliance française de Dhaka du 14 au 31 octobre 2022. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un reportage que Marc Ribou a fait au Bangladesh en 1971 au moment des combats pour l'indépendance. Il est arrivé côté Inde, à Calcutta. Il a photographié les gens qui s'étaient réfugiés dans la région de Calcutta et ensuite il a obtenu l'autorisation de s'embarquer avec une colonne de l'armée indienne et de Freedom Fighters qui l'a accompagné pendant 1971.
Pendant cette exposition, le public a beaucoup apprécié la qualité des photos imprimées. Quelle méthode avez-vous utilisée pour assurer une telle bonne qualité?
On a la chance de pouvoir encore aujourd'hui travailler avec un de ces tireurs qui s'appelle Thomas Consani, dont le père était déjà un tireur pour Marc Riboud. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son travail, qui est un très bon technicien, et donc qui réalise des tirages argentiques manuels au laboratoire et qui a porté beaucoup d'attention à tous les tirages. Et comme les tirages ont été réalisés en même temps, il y a eu une homogénéité dans les tirages. Donc voilà, c'était important pour nous de préparer une exposition telle que Marc Riboud les préparait de son. Dès le premier jour, dès le vernissage, que les gens étaient très curieux de découvrir ces photographies, parce qu'effectivement, pour la plupart, ce sont des photographies que les gens n'avaient jamais vues. Donc c'était évidemment très émouvant. Et ça, indirectement ou directement d'ailleurs, ça touche à leur histoire personnelle, à l'histoire de leur famille, à l'histoire du pays. C'était un moment émouvant.
Marc-Riboud, il était né en 1923 et il est décédé à Paris en 2016. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ses autres œuvres importantes qu'il a réalisées?
Il a vraiment décidé de devenir photographe au début des années 50 et il a travaillé jusqu'aux années 2000. Donc il a eu une carrière quand même très longue de plus de 50 ans, pendant laquelle il a beaucoup voyagé. Il a eu la chance aussi de devenir photographe à la grande époque des magazines illustrés. Donc il voyageait et ses photographies étaient reproduites dans les magazines, ce qui lui permettait de gagner sa vie et de faire de nouveaux reportages. Il est très connu aujourd'hui pour tout son travail sur la Chine, parce qu'il est allé en Chine pour la première fois en 1957 et qu'il y est retourné régulièrement à des moments où il y avait très peu de photographes. Mais il a aussi beaucoup voyagé dans d'autres pays d'Asie. Il avait une attirance importante pour les pays d'Asie. Mais il a aussi photographié en Afrique, par exemple, les mouvements d'indépendance, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, ou bien en Afrique subsaharienne. Il est beaucoup allé au Ghana.
Merci beaucoup, madame. Bonne journée.
Merci bien, Urmila. Merci bien, Lorraine Doré. Lutfer, on vous retrouve pour un moment poétique.
Un hémisphère dans une chevelure par Charles Baudelaire. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sous le parfum comme l'âme des autres hommes sous la musique. Onik. অনেকক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ টেনে নিতে দাও আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে, আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায় ঝর্ণার জলে তৃষ্ণার্তের মতো, সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে যাতে স্মৃতিগুলো ঝরে পড়ে হাওয়ায়। তুমি যদি জানতে যা কিছু আমি দেখি, যা কিছু আমি শুনি, যা কিছু আমি অনুভব করি তোমার চুলের মধ্যে, আমার আত্মা উড়ে চলে তার সৌগন্ধে যেমন অন্যদের সঙ্গীতের পাখায়। লেস মোয়া মগ্ধ লং তং তে থ্রেস লুক তে নোয়াক কং জো মগ্ধিতে শোভ এলাস্টিকে খোবেল ইল মো সম্বল কে জো মঞ্জ দে সুভনির।
মেরসি লুৎফার. Quant à vous, Farine, vous avez rencontré quelques francophones à Dakar.
Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous avons Ekaterina Antonova avec nous. Elle est enseignante à l'Alliance française de Dhaka. Bonjour madame, vous êtes russe mais vous habitez au Bangladesh. Vous habitez ici depuis quand?
Je vis ici depuis 2007.
Lesquelles langues avec votre famille?
Avec ma mère, je parle russe, c'est ma langue maternelle. À ma femme, je parle bengali et anglais aussi.
Et vous êtes confortable à échanger vos sentiments en quelle langue?
Dans trois langues, oui. Avec ma mère, je communique en russe, donc il y a un problème. Donc je communique mes sentiments, je change mes sentiments en russe. Et ici, avec mon mari et ma fille, j'exprime mes sentiments à Bangla. Ou...
Vous avez décidé à gagner votre vie en français à Dhaka. Pouvez-vous parler de votre parcours à l'Alliance?
En 2007, j'ai commencé à apprendre le français à l'Alliance française de Dhaka. Et en 2011, j'ai terminé mes études, ok, mais... Après quelques années, j'ai décidé à devenir l'enseignante, le professeur de FLO à l'Alliance française de Dhaka. Donc maintenant, je travaille à l'Alliance française depuis 2016. Donc ça fait presque 8 ans. Donc ce travail est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de défis. Il faut toujours anticiper des questions possibles, donc il faut savoir répondre à ces questions. Et aussi, c'est assez difficile parce que il faut toujours réfléchir. Donc, comment vous pouvez leur faire travailler ou développer. Mais j'aime beaucoup mon travail, oui, parce que c'est toujours différent, il y a des niveaux différents, donc j'aime beaucoup ça aussi.
Merci beaucoup madame. Bonjour, aujourd'hui nous avons Darshini Rawashi avec nous, et vous êtes d'origine mauricienne, et vous avez bien commencé votre vie ici à l'Alliance, et vous habitez ici au Bangladesh depuis quand?
Depuis 3 ans déjà, depuis le 20 janvier 2020 pour être exact.
Et vous êtes mariée?
Oui, je me suis mariée ici avec un Bangladais et j'habite à Nangan.
Et avec votre mari, vous parlez quelle langue?
Je parle l'anglais.
Et vous aussi parlez français, non?
Oui, je parle français aussi.
Et normalement, vous êtes confortable à échanger vos sentiments en quelle langue?
Je suis plus confortable à échanger mes sentiments français et avec mon mari, c'est l'anglais.
Ici à l'Alliance, vous avez décidé à gagner votre vie en français. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre parcours? Comment vous avez le décidé?
Alors, quand j'étais venue au Bangladesh, je m'ennuyais beaucoup. Alors, j'ai vu qu'on prenait des profs pour l'Alliance française. C'est à ce temps-là que j'ai donné mes lettres de motivation et tout. Et on m'a dit que j'étais sélectée. Et maintenant, je suis en train de faire ma formation.
Merci pour donner vos opinions et votre amour pour la langue française.
Merci.
Bonjour Nazima.
Bonjour.
Vous êtes bibliothécaire ici à l'Alliance française. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours?
Oui, bien sûr. Bonjour déjà. Je viens de commencer de travailler à l'Alliance française il y a un mois. J'ai fait mes études en France. Et je parle également bangla et anglais. Je pense que c'est pourquoi je suis recrutée ici à l'Alliance française. Je suis allée en France quand j'avais 16 ans. J'avais passé mon brevet déjà au Bangladesh. Et je suis allée en France et j'ai passé mon bac. Et j'ai fait un diplôme à l'université. Donc voilà, ça fait Bac plus 2. Et après, j'ai travaillé un petit peu à Paris et je suis revenue au Bangladesh. Je pense que j'ai bien répondu à votre question.
C'est beau que vous parlez plusieurs langues, donc chez vous, normalement, vous parlez quelle langue?
Chez moi, je parle plutôt le bangla parce que mes parents, ils ne parlent pas du tout français. Et en anglais, oui, parce qu'ils faisaient des études en anglais, mais voilà, on n'est pas très, comment dire, à l'aise à parler en anglais à la maison. Donc, voilà.
Donc vous êtes confortable à échanger des sentiments bangla?
Mes sentiments, ça dépend en fait avec qui je parle. Donc, s'il parle en français, oui. S'il parle bangla, oui, bangla. Ça dépend de la personne avec qui je parle.
Et pourquoi vous avez décidé à gagner votre vie en français, en fait, ici à Dakar?
Parce que je vois la connaissance de la langue française en tant qu'une compétence, en fait. Je peux exploiter cette compétence à gagner ma vie. Ça c'est très pratique, je trouve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens déjà. Il n'y a pas beaucoup de compétitivité à Dakar sur ça. Je pense que ça va changer dans 5-10 ans d'ici parce que je vois beaucoup de gens venir à l'Alliance pour apprendre le français. Mais malheureusement, la plupart des gens comme ça partent à l'étranger. Ce n'était pas compliqué du tout de rentrer dans cet endroit parce que la condition de travail ici... Ça ressemble beaucoup au français. Et c'est ce que j'aime bien chez mes collègues à l'Alliance, qu'ils ont gardé le rythme de travail des Français. Parce que les endroits administratifs au Bangladesh sont très longs. Voilà, ça ressemble pas le rythme de travail avec d'autres endroits. C'est pour ça que je préfère travailler dans cette institution.
Votre amour pour la langue française, c'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup, Naziba.
Je vous en prie.
Merci bien, Farine. Et maintenant, Lutfer, vous avez rencontré Yvon Amar, qui est venu de Paris pour travailler avec nous.
Bonjour, Yvon Amar. Vous êtes venu à l'Alliance française de Dhaka pour travailler avec nous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions?
Volontiers.
Comment vous vous présentez?
Je suis journaliste de radio, mais au départ, j'étais linguiste. Je suis encore linguiste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est très souvent de parler ou de réfléchir sur la langue à la radio. Et éventuellement, d'aider les professeurs de français à utiliser la radio pour enseigner le français.
Quel est votre mot préféré?
Mon mot préféré, c'est insouciance.
Quels sont vos petits bonheurs de la vie quotidienne?
Un café, parce que je fais du vélo. Et puis, j'aime bien mon magnétophone. J'ai deux enfants et ils me disent « Ah, c'est ton troisième fils !»
Que faites-vous au week-end?
Parfois, je dors. Parfois, je travaille parce que je suis en retard. Sans ça... J'aime bien faire la cuisine, j'aime bien faire la soupe. Et puis, je fais le marché.
Une habitude que vous entretenez soigneusement?
J'ai mal au dos. Tous les matins, il faut que je fasse la gymnastique. Je déteste ça, mais je me force. Et j'essaye de garder cette habitude de faire au moins 5 minutes et au plus 20 minutes de gymnastique. Sinon, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout.
Et une habitude que vous aimeriez chasser?
Ressasser toujours les mêmes choses, penser toujours aux mêmes choses. Dès que je me lève, je me dis, ah là, si je pouvais chasser ça d'une bourrasque, tu sais, un grand coup de vent et hop, on a l'esprit libre. Ça serait bien.
Quand vous étiez enfant, vous étiez comment?
J'étais assez sage, j'étais un peu trop sage, un peu trop obéissant.
Pouvez-vous nous raconter un petit souvenir d'enfance?
Un jour, j'étais au jardin des Tuileries, c'est pas très loin du Louvre. Et j'étais avec ma sœur. Et ma mère me dit, garde ta sœur, jette un coup d'œil sur ta petite sœur parce que je vais faire une course. Et je dis, oui, d'accord. Et je regardais sur le bassin, il y avait des bateaux avec des enfants qui poussaient les bateaux. Et je regardais les bateaux fascinés. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mon Dieu, ma sœur, je l'ai perdue. Elle était juste à côté, mais j'ai eu une peur terrible. Et je me sentais très coupable.
Les trois choses que vous aimeriez faire avant de mourir?
J'aimerais bien me dire que j'ai bien élevé mes enfants. J'aimerais bien avoir un engagement régulier dans un club pour jouer du piano au moins une fois par semaine. Et puis, j'aimerais bien finir le livre que j'ai commencé à écrire.
Si vous rencontriez vous il y a 30 ans, quel conseil vous lui donneriez?
D'être plus audacieux.
Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de formation. Quel souvenir vous gardez de l'Alliance française et de votre séjour au Bangladesh?
Je ne dis pas ça pour être gentil, hein. Je garde un souvenir magnifique. Parce que j'ai rencontré une équipe pleine d'enthousiasme et d'énergie, avec des gens à qui je dis « Oh, on pourrait peut-être faire ça » et qui disent « Oui, oui, d'accord, on le fait tout de suite ». Ça, pour un prof, c'est merveilleux.
Je vous remercie infiniment de votre visite au Bangladesh et pour le temps que vous avez passé avec nous.
Eh bien, j'espère que je pourrai revenir surtout.
Merci Yvon et Lutfar. Mouchfika, vous avez rencontré des gens qui s'intéressent à l'écrit et aux livres.
Quelle politique de traduction trouve-t-on de nos jours au Bangladesh? Un souci domine dans l'esprit des traducteurs qui vont traduire du français vers le bengali. Ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de travail. Un éditeur et un traducteur nous partagent aujourd'hui leurs réflexions. D'abord, M. Dipankar Das, qui dirige Batikhar, une librairie et grande maison d'édition du Bangladesh. Pourquoi y a-t-il si peu de traducteurs du français vers le bengali et vice-versa? Il faut en prendre les mesures institutionnelles. Il y a ici l'Alliance française et l'Institut de la langue moderne, mais les démarches des langues et des littératures ne sont pas les mêmes. On n'est pas autant exposé à la littérature française qu'à la langue française. En tant qu'éditeur, vous préférez quelle sorte de traduction? La traduction directe du français au bengali ou la traduction de la traduction, c'est-à-dire du français vers l'anglais, puis de l'anglais vers le bengali? Je préfère la traduction directe. On ne se concentre pas seulement sur la littérature, mais aussi sur l'histoire, la géographie, la culture. La meilleure est la traduction si le traducteur plonge dans la profondeur. Quelle initiative faut-il prendre? Avez-vous des projets? Ça fait presque 10 ans qu'on a commencé. Notre effort est encore limité. On a besoin d'une initiative de grande organisation comme la Bangla Academy ou le parrainage du gouvernement, le bangladais ou le français. Et une fois commencé, on n'aurait plus besoin de soutien. Il y aurait du bon travail, du bon traducteur et aussi un nouveau lectorat. À part les classiques, est-ce que la littérature française contemporaine est connue ici? Batigrand, la grande librairie, a l'intention de faire connaître la littérature française contemporaine. Et pour cela, on a besoin de se préparer. Comment assurer la qualité de la traduction? La qualité de la traduction dépend du processus accompli. Un bon rédacteur est aussi important qu'un bon traducteur. La même inquiétude est exprimée par M. Ahmed Bouchir, un écrivain plutôt romancier qui a traduit en bengali en 1985 « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne. Comment avez-vous découvert la littérature française? Il y a des liens entre la littérature française et la littérature bangladaise. On lisait des œuvres traduites dans les années 60 qui nous inspiraient beaucoup. On lisait la poésie de Charles Baudelaire, traduite par Bouteau des Bouchoux. On lisait aussi Arthur Rimbaud, Albert Camus, Jean-Paul Sartre.
lettres. À cette époque-là, la littérature française était une source d'inspiration. C'est comme ça qu'on s'est familiarisé avec elle. Dans notre écriture, dans la littérature bangladaise, il y avait des influences de la littérature française. Pourquoi avez-vous choisi de traduire Jules Verne? Je l'ai traduit en 1985. La Bangla Academy a pris l'initiative de la publication de la collection pour les adolescents. Il m'a demandé de traduire un roman français déjà lu. À ce moment-là, j'avais envie de traduire le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Je l'ai traduit de l'anglais. Pourquoi y a-t-il des réticences à traduire à littérature française? Dans les années 70, 80, 90, il y avait des traductions de la littérature française. Mais ensuite, on ne trouve aucune aide institutionnelle pour la traduction. Ici, à l'université, des départements dédiés pour la littérature comparée. Je pense que pour la traduction, les départements pourraient jouer un rôle important.
Merci bien, Mouchfika. Pour terminer, un coup de projecteur sur une journée très importante au Bangladesh, Irine, Ratika et Arafat.
Bonjour. Le 21 février, la création de cette journée internationale est liée à un mouvement exceptionnel de défense des Bengalis en 1952, afin d'établir leur langue maternelle, Bangla, comme la langue officielle de l'État pour Pakistan oriental. Pour mieux connaître cette histoire et la passation de cette journée internationale, aujourd'hui nous avons deux invités qui s'appellent M. Arafat et Mlle Ratika. Bonjour Ratika.
Bonjour Irine.
Pourriez-vous nous parler d'histoire un peu?
Oui, évidemment. Le 21 février a été déclaré comme la journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO en 1999. Ensuite, cette journée est observée autour du monde depuis 2000. Donc, la déclaration est un hommage au mouvement linguistique de Bangladesh parce qu'à cette époque-là, le Pakistan occidental voulait imposer leur langue ourdou comme la langue officielle de Bangladesh, qui était le Pakistan oriental auparavant. Mais les gens du Bangladesh ont défendu et sacrifié leur vie pour leur langue maternelle.
Comme c'est le jour de commémoration nationale, comment est-ce que vous observez cette journée?
Pour observer les journées, nous portons des vêtements traditionnels en noir et blanc. Par ailleurs, on commence cette journée avec un événement assez ancien qui s'appelle le Prabhat Feri, en français, c'est-à-dire la marche à pieds nus avec des fleurs dans les mains jusqu'au monument mémoriel pour rendre hommage aux martyrs. En outre, on chante des chansons bangla. Par exemple, il y a une chanson qui est très populaire, « Amar bhaiye rokte rangano ekushe februari, ami ki bhulite pari ».
Comme c'est un jour de commémoration nationale, on passe à M. Arafat. En tant que professeur de français langue étrangère, comment est-ce que vous observez cette journée?
C'est un jour férié, donc moi j'essaie de passer mon temps avec la langue bengali. Je regarde des télés, des séries bengali, j'écoute des chansons bangla. Et quand j'étais étudiant à l'université de Dhaka, j'allais au monument. Le monument s'appelle Shohid Minar. C'est un monument qui a été créé pour la mémoire des personnes qui ont sacrifié leur vie pour établir la langue.
Merci, Monsieur Arafat, et merci, Madame Ratika.
Merci
d'être venu.
De bouche à oreille.
De bouche à oreille.
De bouche à oreille.
De bouche à oreille.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce premier numéro de Bouche à Oreille. Fossa Rojon, les mots de la fin.
Ben, les mots de la fin, justement, il n'y a pas de fin aux mots. Et on va essayer de leur donner un prolongement avec cette web radio que nous voulons créer. Je remercie évidemment toute l'équipe, leur enthousiasme, leur passion, et particulièrement Yvan Amar, qui est venu passer cette semaine avec nous et qui nous a transmis son goût de la radio. La radio, c'est une très belle chose.